chers auditeurs, bonjour. Comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver sur notre antenne. Nous venons de rentrer dans le dernier mois de l'année, décembre. Pour vous aider et pour laisser deviner la teneur de ma chronique littéraire, thématique, une phrase de Jacques Prévert. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour vous donner d'exemples. Oui, belle décision. Aussi, je vais vous proposer plusieurs titres pour vous permettre d'être au mieux de votre forme, et ce, avec des textes qui vont peut-être vous surprendre, car vous aurez plusieurs possibilités pour acquérir votre propre bien-être. Commençons par cet ouvrage, un chef-d'œuvre littéraire. Je vous le recommande tout particulièrement pour vous qui êtes proche de l'art et vous aussi qui aimez méditer. Ce livre est passionnant. Il est de Marjane Abadi, passionnée d'art et férue de poésie soufie. Elle développe une démarche médiatique abordant chaque œuvre avec présence, sérénité, ouverture et finesse pour voir ce que l'on voit bien qu'avec le cœur, et ce, selon la formule de Saint-Exupéry. L'auteur intervient régulièrement au sein d'institutions culturelles et crée actuellement une formation spécifique pour les professionnels des musées. Son titre, Méditer avec l'art. Elle recommande plonger dans le beau pour vous ressourcer. N'ayez jamais ressenti, n'avez-vous jamais ressenti une connexion particulière avec une œuvre d'art, au point d'ailleurs de pouvoir la contempler pendant des heures, au point peut-être aussi d'avoir l'impression d'entrer dans la scène. Porteur d'émotions, l'art nous touche de façon singulière et profonde, pour peu que nous nous rendions disponibles. Ces effets positifs sur le bien-être sont d'ailleurs aujourd'hui légitimés par la science. C'est avec l'intention d'offrir à chacun un espace de découverte que l'auteur a créé la méthode mine d'une art expérience. Nouvelle manière d'aborder une œuvre d'art. Elle vous propose une expérience unique de méditation pleine conscience, de neurosciences et de poésie. Il s'agit d'une approche immersive qui vous accompagne pas à pas dans l'exploration des chefs-d'œuvre, à travers l'atmosphère qui s'en dégage, les sentiments des personnages, la texture des étoffes. Cet ouvrage propose 16 méditations guidées, comme autant de voyages intimes au cœur des œuvres prolongées par des références poétiques, que ce soit de Botticelli à Chagall, en passant par Rembrandt, Van Gogh ou bien encore Picasso. Vous pouvez ainsi reprendre souffle, loin du stress quotidien. Totalement magnifique. Elle mentionne aussi, englué dans notre quotidien, nous n'avons pas toujours la possibilité d'arriver seul à cette réceptivité optimale qui nous permet de communiquer avec l'œuvre et d'en recevoir toutes les ondes si bénéfiques pour notre esprit, notre corps, voire notre santé, reliée au cosmos. Nous devons faire un tout petit effort, mentionne-t-elle, vivement recommandé. Cet ouvrage est accompagné d'une iconographie de grande qualité, ainsi que des poèmes « Il va de soi ». Un coup de cœur. Cet ouvrage est paru aux éditions Erol et vous pouvez l'acquérir pour la somme de 19,90 €. L'auteur, Jacques Scheur, est expert en religion orientale. Professeur à Louvain-la-Neuve en Belgique et au Centre Sèvres de Paris. Avec cet ouvrage, il nous conduit de découverte en découverte. Il y a plus de 3 millénaires, en effet, est née en Inde une recherche aussi originale qu'intense sur la nature et les fonctions de la parole. Le titre de cet ouvrage, Parole et silence. L'Inde hindoue héberge des textes gigantesques, mais elle est aussi le royaume du silence, car les mots s'avèrent trop faibles pour porter la charge de l'essentiel. De la conception jusqu'au rite funéraire, les mantras ponctuent l'existence humaine. Pratiquer la parole avec justesse, c'est servir le dharma et trouver sa juste place dans le monde. Objet d'émerveillement, déesse courtisée par les dieux, scrutée par les sages, la parole est aussi l'instrument des désirs, la clé du succès et du bonheur en ce monde et au-delà. L'origine est-elle tissée de paroles et de silence? qu'il s'agisse de communication avec les dieux ou d'échanges entre les vivants, de supplications ou de louanges, de plaintes ou de méditations, paroles et silences s'appellent et se nourrissent l'une et l'autre. Sans y prêter réellement attention, nous partageons avec tous les êtres humains une communauté essentielle qui est la parole. Sous la pluralité veille un lien mystérieux, comme au dehors des mots, qui ne se souvient au cours d'un voyage d'avoir su comment et contre toute attente communiquer avec une personne d'une autre langue, savoir un seul mot en commun. Le phénomène de la parole nous est si familier que sa magie passe inaperçue. Ici, 250 pages, superbe, un coup de cœur pour cet ouvrage qui est paru aux éditions Almora, collection Les Deux Océans, et que vous pouvez acquérir pour la somme de 15 euros. Décidément, plusieurs auteurs s'attellent à la magie du silence. Stéphane Breton, hypothérapeute et auteur de plusieurs articles scientifiques, vient de publier « Penser le silence ». Ne mentionne-t-il pas, dans le préambule de son titre, « La plus grande révélation est le silence », affirmé Lao Tzu, 5e siècle avant notre ère. Le silence possède d'infinies qualités. En effet, il porte en lui cette capacité extraordinaire à exprimer ce que nous sommes, ce que nous faisons ou ne faisons pas, ce que nous formulons sans mots dans l'espace et le temps de l'histoire. Cet ouvrage original propose de croiser des regards sensibles et humains sur le silence, sur des silences. Chacun à sa manière, selon sa propre musicalité, expose ses perceptions, aborde ses ressentis, dévoile ses sensations vis-à-vis du silence. Le silence comme un écho, une résonance, comme un faiseur de correspondance. Le silence qui parle, soupire, menace ou tranquillise. Une écoute au plus près de l'intime de l'être, comme le souligne Maurice Maeterlinck. Dès que nous avons quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Le silence précède la création. Ou mieux, la création procède souvent du silence. C'est bien cette expérience que cet ouvrage propose de penser. Saisissant, complet, une lecture très enrichissante, un coup de cœur également pour ces 190 pages qui ont paru aux éditions de l'Aube, 17,90 €. Philosophe, journaliste, Jean-Louis Ciani a publié plusieurs titres. Aujourd'hui, il nous propose Socrate médecin, pour tant de crises et catastrophes de Jean-Louis Ciani, comme je vous l'ai mentionné. Avec la crise actuelle, on ne comprend plus rien, on n'espère pratiquement plus rien. Comment et pourquoi penser dans ce climat aussi perturbé qu'anxiogène? Comment ne pas sombrer dans la peur et comment réactiver l'envie de vivre? Cet essai propose de remonter aux sources grecques, 4 siècles avant notre ère, auprès de Socrate, qui, à travers le questionnement philosophique, invitait ses concitoyens à une pratique inédite, le soin de soi. Cette incitation résonnait dans une Athènes en crise, ébranlée par une épidémie, une succession de guerres et de violents conflits politiques au bord d'un précipice historique. La philosophie de Socrate voit donc le jour sous fond de désastre. En soignant l'âme de ses errements et de ses peurs, Socrate tentait aussi de guérir une cité divisée, soumise aux injustices et menacée par le populisme, c'est-à-dire sa modernité. L'auteur réactualise ici le questionnement socratique en un remarquable outil philosophique pour affronter nos crises. 340 pages qui ont paru aux éditions Le Relier et que vous pourrez acquérir pour la somme de 18 euros. Et puis, chers auditeurs, on terminera la chronique aujourd'hui avec ces deux ouvrages, une très belle reprise que ces derniers, qui sont édités en format poche et sont parus en 2005. Ils sont de Carl Gustav Jung, né en 1875 et disparu en 1961. Dauphin désigné de Freud, avant de rompre avec son maître sur la question religieuse et du sens à accorder à la mythologie. il a été le président de la première association psychanalytique internationale, psychiatre de renommée internationale et inventeur, fondateur de la psychologie analytique. Aujourd'hui, donc, je vous propose ces deux reprises. Il s'agit de l'analyse des rêves, tome 1 et tome 2, notes du séminaire de 1928 à 1930. Comme Freud, Jung a toujours considéré le rêve comme la voie royale d'accès à l'inconscient. Mais héritier de la tradition néoplatonicienne, de la théologie mystique et de la philosophie romantique allemande, il envisage l'inconscient d'une manière différente. Pour lui, le rêve ne demande pas à être décrypté pour faire venir au monde, au jour, son sens caché. Selon la formule du Talmud, il est son propre commentaire et son interprétation consiste à en découvrir le sens interne. Les rêves invitent ainsi qu'à un travail de comparaison avec des motifs folkloriques, mythologiques ou religieux. Des formations symboliques telles que le révèle l'ethnologie et l'anthropologie. Dans le premier tome, à partir de multiples exemples soumis à la discussion avec les participants, dans un style direct et remarquablement vivant, Jung formule sa théorie du rêve. Dans la seconde partie du séminaire de 1928 à 1930, comme dans le premier volume, il ne se contente pas de faire la théorie du rêve à partir de rêves réels, d'abord de façon pédagogique, puis à travers une discussion suivie avec les participants du séminaire. Il nous montre alors, d'une façon particulièrement vivante, comment se pratique la lecture symbolique des rêves. Totalement passionnant ces deux ouvrages. Ils sont de 460 pages chaque et de 650 pages. Ils ont paru aux Espaces Libres Poche, édition Albin Michel. Voici, chers auditeurs, pour cette semaine. Comme toujours, je vous convie de rester à nos côtés pour la suite de notre programmation. Je vous donne rendez-vous, en ce qui nous concerne, la semaine prochaine, avec encore de très beaux textes littéraires. Au revoir.
That's wonderful, that's wonderful. God luck my baby, that's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da di dum di dum, chibom chibobom. Da di dum di dum, chibom chibobom. Da di dum di dum.